tous et bienvenue autour de votre grande table. 70 ans après sa mort, en quoi Orwell est-il toujours un écrivain d'aujourd'hui? Comment a-t-il mis sa vie au service d'une œuvre? Visionnaire, mais surtout profondément humaniste, l'auteur de 1984 a encore beaucoup à nous dire du monde dans lequel nous vivons. À partir de 12h55, rendez-vous avec le journaliste Adrien Jolmes, auteur de Sur les traces de George Orwell, qui paraît aux éditions des Équateurs, en discussion avec Aurélie Marciro, rédactrice en chef adjointe du nouveau magazine littéraire. Mais d'abord, Colline Serrault, au naturel, femme de théâtre et de cinéma, la réalisatrice de Trois hommes et un couffin ou encore de La crise se raconte dans un livre qui paraît chez Actes Sud, hashtag ou dièse Colline Serrault, ceux qui l'ont précédé, ceux qui l'ont inspiré, ce pourquoi il faut s'engager. Elle est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Hier, un spectacle participatif avec vote du public à main levée. Aujourd'hui, un livre à entrer. À 70 ans, le moment est venu pour elle de se raconter tout en faisant de sa vie le matériau premier de cette création. Mais est-ce vraiment nouveau? Ce qu'il est, bonjour à vous d'abord, Colline Serrault.
Bonjour.
C'est ce format de confidence-conférence. Est-ce que le titre, le mot vous convient?
C'est pas vraiment des conférences, ni des confidences. Confidences, c'est-à-dire c'est plutôt raconter des origines, les raconter d'une manière qui soit presque romanesque, ou en tout cas amusante, et parce que la philosophie de ça, c'est de dire on vient de quelque part, on vient tout ce qu'on est, tout ce qu'on emploie, tout ce qu'on sait, ça vient de quelque part. Et c'est quelque chose qui a tendance à être oublié. Ma vie, elle n'est pas plus intéressante que celle de quelqu'un d'autre. Elle n'est intéressante que si elle se relie à celle de quelqu'un d'autre. Ou si dans ces histoires que je raconte, quelqu'un peut se retrouver ou retrouver des histoires qui lui sont arrivées et des émotions qui lui sont arrivées. Et moi, je pense qu'on peut prendre n'importe qui, totalement par hasard, dans le métro ou dans la rue, s'il nous raconte son histoire, c'est passionnant. Moi, je connais la mienne, donc j'ai raconté la mienne, mais c'est pas vraiment moi qui m'intéresse. Voilà.
Vous la connaissiez, la vôtre, parce que cette transmission s'est faite. Vous grimpez l'arbre généalogique, on retrouve quelques grandes figures en remontant assez loin, aux arrière-grands-parents. Vous la connaissiez, cette histoire, ou vous êtes allé la chercher?
Non, elle a toujours été très présente dans cette famille. On a toujours connu nos racines, disons. Ça remonte à Bernoulli, puis à d'autres, à des prédicateurs dans la Drôme, l'Ardèche et les Cévennes, mais je savais tout ça. J'ai pas eu besoin de chercher. Après, il y a des documents que j'ai retrouvés, mais puis il y a des choses que j'ai un peu romanisées, disons, parce que la première histoire, on sait que c'est ça qui est arrivé, mais on sait pas comment. Et moi, je raconte comment, à ma manière ou en imaginant. C'est donc aussi, il y a des parties qui sont pas absolument du documentaire, quoi.
Il y a une mise en partage à travers à la fois le théâtre, puisque vous avez d'abord choisi de vous produire sur scène à Lyon pour partager cette histoire avec un public. Aujourd'hui, à travers ce livre et des lecteurs, vous l'écrivez. D'ailleurs, je ne sais pas qui me lira, ni pourquoi, l'écriture de ce livre. Mais il y a quand même eu cette envie à un moment de partager ça. Pourquoi, pour vous?
Il y a quand même trois parties hein, dans le livre. Il y a la partie qui concerne mon histoire, d'où je viens, aussi pour dire s'il y a des choses que j'ai défendues, comme l'écologie ou le féminisme, ça vient pas de nulle part. Il y a des gens, des géants qui m'ont précédé. Il y a une deuxième partie qui sont des scènes, des grandes scènes qui sont soit issues de La crise ou de La belle verte, ou des scènes inédites. C'est aussi... Ça, c'est mon métier de scénariste et d'écrivain de théâtre aussi, de dialoguiste. Et puis la dernière partie, c'est vraiment des pensées, que j'appelle mes pensées, quelques pensées, c'est-à-dire des réflexions sur le futur, sur l'écologie, sur le féminisme aussi, sur Freud. Il y a un grand passage sur Freud, sur Rembrandt, sur Bach, les choses que j'ai aimées, que je connais, peut-être pas d'une manière, comment dire, universitaire, mais d'une manière artistique. C'est-à-dire que un créateur a un lien avec d'autres créateurs qui est très particulier, qui est très différent d'un intellectuel ou d'un historien de l'art. on a un rapport très... Et c'est intéressant aussi de d'écrire ce rapport, de montrer que il y a plusieurs lectures d'une œuvre qui vous a influencé.
Même si ça peut être douloureux, vous écrivez « Nous allons de chagrin en chagrin sans se parler assez. Nous bâtissons des murs de protection pour survivre qui ne nous protègent de rien du tout. » En écrivant ces lignes, je me mets à comprendre pourquoi écrire mais si douloureux. Repasser par ces sentiers escarpés, éprouver ces peines de nouveau. Pourquoi ? Pour qui ? L'écriture de ce livre, elle n'a pas été si facile ?
Si, c'est pas... Toute création comporte ce moment escarpé. même si ce n'est pas vous-même que vous racontez, de toute façon, c'est vous-même quand même qui est là au fond et qui parle par l'inconscient. Et le drame de la page blanche, de la toile blanche, c'est ça. Il faut passer par la douleur pour pouvoir atteindre la profondeur. Même si à l'arrivée, vous êtes plutôt plus dans la joie que dans le désespoir. Mais si on ne passe pas par la douleur qui est le lot de toute l'humanité, on ne fait qu'être à la surface des choses.
Ce qui ne l'est pas nouveau, c'est la porosité entre votre histoire familiale, vos émotions, vos passions, vos engagements et vos films ou vos pièces. Petit cas pratique avec la crise sortie en 92, Vincent Lindon en Victor, quitté, viré. Arrivé chez ses parents, il apprend que sa mère a un amant et qu'elle quitte le foyer familial. Scène mythique, sorte de monologue du vagin de la femme au foyer, déclamée par la grande Maria Pacôme, décédée l'an dernier.
Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça t'intéresse pas toi? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul moi? Ils sont insensés tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'était drôlement chouette le cul avec votre père. Mais voilà, que vous voulez, maintenant, il ne se passe plus rien entre nous. Alors, ça ne vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais, même.
Qu'est-ce qui vous a inspiré cette scène?
Oh, toutes les femmes sans aucune exception, qui sont dans le service, tous les services, hein, le service affectif, sexuel, le service maternel, ménager, le service fidélité, même, je dirais, qui est une aberration. Enfin, le corps de personne n'appartient à personne. Je veux dire, notre corps et notre destinée n'appartient qu'à nous. Et c'est ça, c'est toute la société est fondée sur la négation de cette liberté, pour les femmes en tout cas. Donc voilà, c'était juste une déclaration de liberté parfaitement normale et de ne pas obéir à des lois qui ne sont même pas écrites, mais qui sont tellement prégnantes que même sans être écrites, elles vous façonnent et elle a décidé. Et c'est pas une liberté méchante ou agressive. Elle va vivre maintenant ce qu'elle a. Elle n'a pas été forcément malheureuse. Elle était beaucoup dans le service, hein, mais elle n'a pas été forcément malheureuse, mais maintenant elle a décidé d'être autre chose, ne plus du tout être dans le service. Je pense que beaucoup que la jeunesse conteste largement le service, sans même le verbaliser ou le théoriser, mais il y a une espèce de rejet, parce que l'égalité avance, du rôle de servante de la femme, qui est encore une fois implicite.
Mais au début des années 90, c'est encore culotté de dire ça, de mettre ça dans un film.
S'il y avait que ça qui était culotté dans ce que je... Enfin, je veux dire, j'ai écrit un film sur l'homosexualité en 60, disons 73, que j'ai réussi à tourner en 75 ou 16, et qui a complètement... ça s'appelait Pourquoi pas, avec Samy Frey, Christine Murillo et Mario Gonzalez, et ça a été un scandale, mais enfin, je veux dire, il est jamais passé à la télé. Ça a été, les gens, c'était très soft, hein, c'était pas du tout un porn. Voilà. Donc j'ai l'habitude, oui, je vais pas me dire que je suis en avance ou pas. Je réfléchis à cette société. Je vois bien comment elle, enfin, j'essaye de comprendre et de voir comment elle avance, et je vois bien que c'est, qu'on sait que physiquement, dans la population, il y a entre 15 et 20% de gens qui sont en tout cas homosexuels ou bisexuels, et que, enfin, ça c'est une donnée, disons, anthropomorphique, c'est comme ça. Donc vous imaginez le nombre de gens depuis la nuit des temps qui en bavent, quoi, à cause de ça. Et c'est fini, ça. Il y a des avancées. Moi, je les ai sentis déjà dans les années 70. Mais j'étais pas la seule. Et puis il y a bien d'autres choses. L'écologie et la manière de traiter la terre, ça fait des années. Et la santé, surtout. Et ça, c'est parce que j'ai été élevée dans cette école de Beauvallon où c'était, on a servi de travaux pratiques de ça pendant 80 ans. Donc, et on a vu que ça marchait. Voilà. Donc c'est, je sais pas si je suis, on me dit toujours t'es en avance, mais des fois je suis dans la vague avec Trois hommes et un couffin, c'est pile dans le moment où les hommes, au fond, se voient assez heureux dans un rôle paternel plutôt que paternaliste. Et puis des fois c'est très en avance comme La Belle Verte, où ça a mis 20 ans pour qu'on comprenne ce qu'il y avait dans ce film. C'est pas grave, moi j'avance à mon rythme, c'est mon travail et c'est probablement ma destinée.
Mais vous racontez beaucoup votre père, notamment dans ce livre, votre mère aussi, on va y venir, parmi ces figures qui ont compté pour vous, Trois hommes et un couffin, il y a quand même une rupture qui se joue avec les stéréotypes, les représentations que vous aviez de la paternité aussi, vous. On vient de loin quand même.
Oui, mais il n'y a pas que moi. Enfin, moi, je suis pas tellement intéressante. C'est pas... Je veux dire que le père que j'ai eu, qui était un père admirable pour beaucoup de gens, qui était un type très courageux et qui a eu aussi un flair littéraire et théâtral absolument, et qui a vraiment fait une œuvre théâtrale remarquable, il n'était pas un bon père. Voilà, il était un père de son époque. Il y en a des masses comme ça, et il y en a des gens, beaucoup, qui sont restés tout en étant des pères impossibles. Puis il y a eu des bons pères aussi, je veux dire, il faut pas généraliser, mais l'époque était tellement patriarcale, et le patriarcat était tellement prégnant, que ça se pose, ça c'était même pas condamné. En 65, on n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque quand on était une femme, c'est pas l'âge des cavernes.
Qu'est-ce que je lui avais fait à ce père pour qu'il me traite comme ça? Je ne le saurais jamais, écrivez-vous, après un épisode dans les coulisses du théâtre.
Hein. C'est le patriarcat.
C'est le patriarcat. Femme rebelle, inadaptée ou décidée, vous racontez ces femmes qui vous ont marqué, pionnières, effrontées, libres surtout de votre grand-tante Hélène, devenue bonne sœur, une femme savante, passionnée de mathématiques et jugée pour cette raison non épousable, mise au banc, parce qu'on n'avait pas le droit d'en savoir plus éventuellement qu'un mari. Votre mère Geneviève aussi, son ami algérien, son esprit de résistance. Votre mère encore agrégée de lettres, alitée toute sa grossesse, qui lit et savoure Saint-Simon. À la fin des fins, les combats de mes parents, écrivez-vous, se sont trouvés justifiés par l'histoire, par la victoire du FLN, la fin de la guerre d'Algérie, la libération des colonies françaises, la fin du franquisme et du stalinisme, et pour ma mère, par certaines victoires remportées par les femmes. Vous aussi, l'histoire est quand même en train de vous donner raison sur tous ces sujets que vous abordez depuis une quarantaine d'années.
Ben surtout sur l'écologie. Hein. Et c'est pourquoi... Il faut pas avoir peur d'être en minorité à un moment ou à un autre, et d'avoir le sentiment de ne pas être compris, ou parce que, et puis on peut aussi se tromper, hein, on peut aussi se tromper, mais c'est vrai que j'ai vu tellement de tous ces combats devenir finalement la norme et le bien par rapport au mal, quand toute la France est devenue résistante. Alors qu'il y avait 0,0001% de résistance au début de la guerre. La force de ça, c'est que ça donne une espèce de structure intellectuelle où on se dit la seule chose à laquelle je dois me raccrocher, c'est mes convictions, c'est mes recherches, à partir de recherches, hein, pas à partir d'intuitions comme ça. Sans fondement, mais c'est travailler, toujours travailler, écouter la pensée des autres, la lire, la comprendre, et voir comment se positionner. On vit en ce moment, par exemple, dans une époque très complexe sur comment se positionner vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis du terrorisme, vis-à-vis du racisme. C'est complexe comme problème. Et il faut le penser, réfléchir, et puis ensuite prendre position sur ce qu'on croit être juste, Et l'histoire vous infirme ou vous confirme.
Et pensez à la manière de le dire. Est-ce que c'est pas aussi important, Colline Serrault, pensez à la manière de transmettre ses convictions par le biais de la comédie au cinéma, par le biais de la scène, ne pas braquer, ne pas juger.
Bien sûr, c'est ça, c'est l'essentiel. Nous, on n'est pas les artistes, nous ne sommes ni des journalistes ni des politiques. Les politiques doivent prendre position, agir sur le monde par des lois, par des actions. Nous, on a un rôle qui est plus complexe, qui est il faut qu'on séduise, il faut que nos idées passent avec des armes, certes, qui sont des kalachnikovs, mais qui sont de l'humour et du charme. Si on n'a pas ce charme et cet humour, ça passe pas. Et en même temps, le charme et l'humour font qu'on n'est plus jamais en position de dire c'est noir et blanc. On est tout le temps dans la dialectique et dans les contradictions humaines. Et c'est ce qui fait qu'une œuvre est riche ou pas. Je sais pas si j'en parle dans le bouquin, mais Balzac, pour moi, c'est vraiment l'exemple. C'est un homme de droite qui défend les institutions, la monarchie, la religion, etc. Et il n'y a pas plus marxiste que Balzac. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir une telle puissance d'analyse que finalement il décortique le monde où il est beaucoup plus puissamment que Zola. Et si vous savez lire entre les lignes, la monarchie c'est une infection, le statut des femmes c'est une infection, et la religion est une pure hypocrisie. Je veux dire, et ça, Balzac, c'est lui qui le dit. Donc il y a une manière, mais il le dit pas directement. C'est-à-dire qu'il y a une manière. L'artiste est un témoin qui doit pouvoir accompagner les contradictions.
Parmi les figures qui vous ont marqué, il y a celle de Marguerite Soubeyran, qui a fondé l'école Beauvallon que vous évoquiez, où vous avez passé petite 3 ans. Les adultes, ils ne sont pas tous épatants, disait-elle, tandis que les enfants, ils sont merveilleux. Ça, c'était devant la caméra des réalisateurs de Une école, une ville, une vie. Un film documentaire sorti en 72. On l'écoute.
Il faut faire une école où on pourra aider les enfants, où on pourrait les mettre dans un milieu qui leur permettront de se développer et de ne pas laisser leurs facultés s'amoindrir et disparaître par le fait de tout ce qu'on leur fait peser dessus, aussi bien dans la famille, dans l'école, que dans la société, que partout. Alors nous sommes dit tout de suite, la première chose à faire, c'est de mélanger complètement les enfants à la direction de la maison et à ce que nous voulons faire dans la maison. C'est-à-dire ne rien faire dans l'école qu'ils ne sachent pas pourquoi nous voulons le faire, le leur expliquer et qu'ils comprennent, et discuter avec eux tout ce que nous ferons dans l'école, aussi bien nous, les adultes, que les enfants, etc. Et ensemble, arriver à mettre sur pied un ensemble de lois très simples, qui puissent que la maison marche harmonieusement et sans difficulté. Alors nous avons fait ce qu'on appelle les assemblées. Je serais incapable d'être dans une école sans assemblée. C'est le pivot de l'école. Et nous devons toujours les mettre en situation de réussite et jamais essayer de les mettre en situation d'échec. C'est la chose la plus importante pour les gosses que nous avons ici, n'est-ce pas ? Que ce soit pour la classe, que ce soit pour leur travail dans la maison, que ce soit pour n'importe quoi, il faut toujours appuyer sur ce qui réussit et ne jamais sur ce qui échoue. Échouer, c'est un accident. Réussir, c'est la vie. Dans l'accident, on passe, quoi. C'est un accident et puis ça passera.
Voilà, c'était un projet fou, cette école qu'elle a ouverte et qu'elle a dirigée. Une école où tout se passait en assemblée, où les décisions se prenaient de manière collégiale et surtout cette idée quand même assez folle que la voix d'un enfant vaut la voix d'un adulte.
Oui, dans les assemblées, la voix d'un enfant valait la voix d'un adulte. Et c'était pas non plus de la démagogie genre libre aux enfants de Somerville. C'est-à-dire qu'il y avait une discipline quand même. Il y avait quand même l'idée que l'adulte encadrait, parce que les enfants s'encadrent, ils deviennent fous, ils sont malheureux. Mais il y avait un endroit, un moment dans l'école où on pouvait dire ce qui dysfonctionnait, comment on aurait inventé mieux les règles. C'est-à-dire que ça faisait appel à l'intelligence collective et les gosses ont une immense intelligence de ce qui leur convient. Et quand on respecte leurs paroles, ils vont pas proposer des trucs idiots. Et puis s'ils proposent des trucs idiots, on les met au vote, on explique. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans des choses qu'on nous imposait. Il y avait des règles admises en commun et expliquées aussi. Donc les lois, si on les explique aussi, c'est beaucoup plus. On les admet. Il y avait cette idée très forte aussi que que la réussite, c'est la règle, et l'échec, c'est un accident. Ça, c'est vraiment le contraire de l'éducation, du système d'éducation français, où on cherche la faute. On va toujours chercher là où le gosse n'a pas la connaissance, ne sait pas faire, etc. Au lieu de d'abord voir ce qu'il sait faire, ce en quoi il est bon. Tout le monde est doué pour quelque chose. Un petit, même si c'est ténu, et à partir de ce fil-là, tirer vers, encourager ça, et tirer vers d'autres connaissances. Ça ne veut pas dire qu'il faut être que dans la démagogie. Mais cette démarche-là, elle marche. Et il y avait aussi les réunions culture, c'est-à-dire que 10 minutes par matin, on entendait tous ensemble un morceau de musique, un poème, où on regardait un tableau. Mais 10 minutes, c'est tout. C'est pas sans pédantisme, juste comme ça. Il y en avait qui ça rasait, puis d'autres, petit à petit, ça les rasait moins, ou alors un poème leur parlait plus qu'une toile. Mais c'est vrai que cette toute petite astreinte à la culture tous les jours, ça, c'est finalement, si vous, les gens, les gosses que je retrouve après, qui sont comme des frères de l'école de Beauvallon, bah c'est ça qui les a marqués, ça leur a ouvert l'esprit.
Ces principes, ils peuvent être transposés sur un plateau, sur un tournage.
Cette
intelligence collective et ce partage.
Surtout dans les écoles et surtout dans la société. Là encore, les tournages, on s'en fout un petit peu. C'est pas ça, le tournage, il ressemble à la personne qui le dirige, c'est obligatoire, mais c'est des règles très simples qui pourraient être mises en œuvre dans les écoles. Hein.
Quelques notes de bac, juste pour vous, Colline Serrault. De Bach, Ich will den Kreuzstab gerne tragen. C'est sous la direction de Alfredo Bernardini avec une chorale, un chœur et cet ensemble Zefiro. L'album, le disque vient de paraître sur le label Arcana. C'était le 6 septembre dernier. Bach, essentiel pour vous. La beauté de ces compositions que vous louez dans cet ouvrage hashtag Colline Serrault qui paraît chez Actes Sud. Diriger un chœur, une chorale. Vous l'avez fait.
Je le fais toujours.
Et vous le faites toujours.
Oui, ça fait 13 ans là, que je dirige ce chœur qui s'appelle le Chœur Delta. Et c'est très beau cet enregistrement. C'est une toute petite formation. Hein. Parce que souvent, les chœurs sont chantés par des chorales, disons. Mais là, ils sont 8, peut-être un peu plus, pas plus. Et c'est très beau parce qu'on entend bien, bien toutes les voix avec des voix sans vibrato. C'est une belle interprétation.
Alors c'est très beau, vous dites aussi dans ce livre, Colline Serrault, que pour vous, Bach est sûrement l'artiste, le compositeur le plus inspirant pour écrire des scénarios. Un scénario ou un roman devrait, si l'on s'approchait un peu, d'en réussir la structure, obéir aux mêmes lois, emmener le lecteur-spectateur avec sûreté vers un but, un sens, sans qu'il s'en rende compte, en épousant la ligne sinueuse des accidents de la vie qui semblent nous égarer, mais qui nous guident fermement vers notre destin. Le plaisir de la surprise, du coup de théâtre, du presque rien qui fait tout basculer, en porte le public qui entrevoit ainsi l'irrationnel de sa propre vie avec la distance acceptable que propose la fiction, le mythe ou le conte, ces mondes inquiétants, terrifiants, rassurants qui nous aident à déchiffrer ou supporter nos existences. Ça, c'est la fiction. Et très souvent, vous l'évoquiez, vous revenez au réel, au monde qui nous entoure. Vous évoquiez aussi la question écologique, climatique, qui a été essentielle pour vous très vite, très tôt. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais vous en parliez déjà, notamment dans Solutions locales pour un désordre global, documentaire sorti en 2010, que vous aviez réalisé avec un livre qui l'accompagnait. Vous pensez qu'on est à un moment charnière aujourd'hui de prise de conscience ?
De prise de conscience, oui, elle est plus grande, la prise de conscience. De réparation, je pense pas. Je pense que c'est un peu passé maintenant, la réparation. Et il y aura peut-être des systèmes de résilience, mais on n'a pas l'air d'aller vers ça, hein. Je pense pas. Au niveau mondial et au niveau macroéconomique, c'est pas du tout vers ça qu'on va. Il faut commencer à s'organiser pour essayer de survivre quand les choses iront mal, peut-être.
S'organiser face à l'effondrement ?
Oui, enfin, moi, je ne suis pas non plus le collapsologue, mais il va y avoir des gros problèmes, quand même. donc peut-être, s'organiser en groupe, surtout pas seul, pas dans des petites solutions seules.
Mais est-ce que l'homme en aura l'intelligence ? Vous ne semblez toujours pas convaincu que l'homme soit l'espèce du vivant la plus évoluée ?
Non, ça c'est certainement... Mais non, elle est arrivée la dernière, donc elle est tout à fait primitive. Et on est un peu au niveau d'un nourrisson de 2-3 mois, quoi, par rapport à la vie des arbres ou des animaux. Et comme disait Bourguignon, le jour où éventuellement on disparaîtra, la nature fera ouf. Enfin, ce qui est pas ouf, enfin, ils sont plus là. Mais bon, on peut aussi. Moi, je pense qu'il y a une grande égalité entre tous les règnes, disons, le règne animal, végétal et même minéral. On est fait des mêmes atomes. Il va falloir juste commencer à être un peu moins. Modérer notre hubris. Et puis peut-être, c'est quand même pas les femmes qui nous ont amenés là. On n'a rien dirigé, nous, là. Donc, il serait peut-être un peu temps que ça s'équilibre.
Inverser les rôles.
Voilà, et de s'occuper des... Pas inverser, mais au moins équilibrer.
Quoi. Ouais. Et de s'occuper des vrais problèmes. Vous retranscrivez d'ailleurs dans ce livre un extrait du film La Belle Verte avec ce monologue, cette tirade de Vincent Lindon à un conducteur dont il a abîmé le rétroviseur. Sur la Terre, il y a 4 types sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans des caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer ou du sida dans les hôpitaux. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché ton rétroviseur. Merci beaucoup à vous, Colline Serrault. Fragments, pensées, mémoires à lire dans cet ouvrage, hashtag Colline Serrault, qui paraît chez Actes Sud, avec une rencontre le 17, la semaine prochaine, avec Laure Adler et vous à la librairie du Théâtre du Rond-Point à Paris, et peut-être un spectacle créé à la Comédie Odéon de Lyon qui va tourner partout en France.
Probablement, oui.
Et ce film Tempête avec un S.
Oui, Tempête, puis aussi un autre film Boomerang.
Merci beaucoup à vous.